Depuis quelques semaines déjà, on parle beaucoup de ce vol d'informations chez Desjardins et plus il y a des annonces qui sont faites, plus il y a des questions aussi qui sont arrivées de part et d'autre. On a répondu à une tantôt, c'est-à-dire les gens qui quittent le mouvement Desjardins, est-ce qu'ils ont la protection quand même? La réponse est oui. Desjardins a fini par répondre. Si vous quittez le mouvement Desjardins, si vous avez donc vu vos données voler et que vous n'êtes même plus membre Desjardins, vous êtes protégé quand même. Ça, c'est réglé. On a parlé d'Equifax aussi. Hugo, tu l'as fait, toi. Le processus pour t'inscrire, ça va relativement bien, dépendamment de l'heure de la journée, quand t'appelles et tout le kit.
Non, exact.
Bon, fait que ça, il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Par contre, il y a quelqu'un qui a levé la main en disant, t'as peu, là, c'est bien beau, on s'est fait voler des données chez Desjardins, on envoie les gens chez Equifax, mais le système d'identification et de recouvrement du mot de passe chez Equifax, est-ce qu'il est si valide et si actuel que ça? Et cette personne-là se nomme Éric Tremblay. Il est spécialiste en sécurité de l'information. Vous avez peut-être vu son texte circuler sur les médias sociaux. Monsieur Tremblay, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi vous avez décidé de faire cette mise en garde-là? Vous avez vous-même été victime du vol d'information, puis vous avez fait le processus?
En effet, parmi les 2,9 millions de clients chez Desjardins qui se sont fait subtiliser leurs informations, malheureusement, c'est pas parce qu'on est spécialiste en sécurité de l'information qu'on est immunisé à ces choses-là. J'ai fait le processus en recevant mon code et une chose intéressante, c'est que j'avais déjà un compte chez Equifax. Alors, en m'enregistrant, la chose qui s'est passée, c'est qu'on m'a demandé de récupérer mon mot de passe de mon compte précédent. Et c'est là que je me suis aperçu de quelque chose d'assez intéressant. C'est que la méthode pour récupérer le mot de passe se base sur la question secrète qu'on nous demande de choisir à l'inscription. Alors, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai dit, bon, on me demande dans la méthode de recouvrement mon nom, mon prénom, ma date de naissance, à la limite, mon numéro d'assurance sociale, s'il a déjà été inscrit dans le dossier Equifax, mon code postal, qui sont toutes des informations qui ont été subutilisées, bien entendu. Et le seul morceau d'information qui n'est pas encore connu par nos chers pirates informatiques qui ont probablement la main sur nos informations, c'est cette fameuse phrase secrète-là. Alors, je me suis dit, waouh, si quelqu'un connaît mon passé, c'est où je suis allé à l'école, ben c'est une des réponses. Dans quelle ville êtes-vous allé à l'école secondaire? Si on me connaît, on connaît la réponse. Alors, je me suis dit à moi, j'ai dit 1 plus 1, c'est pas très, très, très élégant de faire 2. Mais on se retrouve avec une faiblesse dans le système d'authentification qui date des années 90. Aujourd'hui, on va voir, quand on veut recouvrir son mot de passe, on a juste besoin de faire l'expérience sur certains sites, là, par exemple Hydro-Québec, ou même en utilisant Outlook de Microsoft ou Gmail. Ce qu'ils vont faire, c'est la chose suivante, c'est qu'on va nous envoyer un code sur un appareil mobile ou sur un numéro de téléphone ou une adresse courriel différente pour être capable de vérifier que la personne qui demande le changement de mot de passe est bel et bien le détenteur du compte. Et chez Equifax, malheureusement, c'est pas ce qui se passe. Alors, on se retrouve avec une organisation qui va faire la vérification de notre crédit, qui va nous envoyer des alertes. Mais le mécanisme d'alerte lui-même est vulnérable dans le sens où si quelqu'un prend le contrôle de ce compte-là, change l'adresse courriel pour les alertes, change le numéro de téléphone, on vient de prendre le contrôle d'un outil pour nous avertir et puis le détenteur de ce compte-là sera jamais au courant que ça s'est passé, là. Alors, j'ai voulu avertir mes amis. Ça a commencé comme ça. Et mes amis m'ont demandé, écoute, ton texte, c'est le fun. Ça serait-tu possible de te partager avec d'autres? Et ça a fait boule de neige. J'ai vérifié ce matin, là. J'étais rendu à 22 000 partages du texte. Donc, ça semble quelque chose qui est intéressant là, pour les personnes qui sont touchées par cet événement-là.
Ben, dites-moi, M. Tremblay, probablement justement qu'avec 22 000 partages, des entrevues comme ce qu'on fait en ce moment, les gens de Desjardins d'Equifax seront mis au courant, puis probablement qu'on va changer les façons de faire. Mais jusque-là, qu'est-ce que vous suggérez aux gens?
Bon, première chose, avant d'écrire mon texte puis de l'envoyer sur les médias sociaux, là, par souci de transparence avec ces deux organisations-là, parce que j'essayais pas de leur taper sur la tête, là, j'ai moi-même envoyé la découverte que j'avais fait au groupe de gestion de la vie privée chez Desjardins et chez Equifax. Donc, ils sont déjà informés. Pour la question de quoi faire, dans n'importe quelle circonstance où on utilise des phrases secrètes ou des éléments où on nous demande de donner des informations pour s'identifier, la chose à faire, c'est de peut-être choisir des informations qui ne sont pas liées à la réalité. Donc, si on me demande dans quelle ville je suis allé à l'école, la pire chose à faire, c'est de répondre la bonne réponse.
OK. Oh, donc,
alors, okay. Ça serait de mettre une mauvaise réponse, par exemple, dans mon texte, exemple, de mettre Mars. OK, je suis allé à l'école sur Mars. Alors, à partir de là, ce qui se passe, c'est qu'il y a seulement moi qui sais quelle réponse j'ai donnée. Je peux l'écrire sur un bout de papier, mettre ça dans un dossier chez moi, et puis si jamais j'ai besoin de récupérer mon mot de passe, ben au moins j'ai une réponse que personne d'autre connaît et c'est un minimum de protection. J'irais même pas mettre un nom de ville parce que d'un point de vue technique, un pirate pourrait prendre le dictionnaire de toutes les villes du monde, les mettre dans un logiciel d'attaque et faire toutes les tentatives possibles et arriver à trouver la bonne réponse. Alors, c'est de trouver des éléments qui sont à côté de la réalité. Mettre un caractère spécial, mettre des caractères spéciaux, des choses qui vont faire qu'il y a seulement moi qui va connaître cette réponse-là et personne d'autre et qu'elle ne peut pas être trafiqué par un logiciel ou un dictionnaire ou un robot.
Vous êtes en train de nous dire que, étant donné que la réalité des choses fait que c'est un petit peu simplet la manière d'Equifax et tout ça de nous installer notre protection, parce qu'en réalité, c'est quasiment une continuité de ce qu'on subit au niveau de la faille, ben, tant qu'à être dans la game simple, on va la jouer simple aussi. Et sur les questions de sécurité, au lieu de donner des vraies réponses, ben, donner des réponses bidons, mais que vous savez, comme ça, ça va au moins un peu mystifier les éventuels pirates. Ouais.
Et c'est vrai pour, je vous dirais, à peu près toutes les plateformes. Si vous vous inscrivez sur une plateforme de courriel électronique, souvent on va vous demander votre date de naissance pour fin de récupération. En fait, c'est souvent des pour fin de profilage, pour envoyer de la publicité plus ciblée. Choisissez toujours des informations qui sont à côté de la réalité. Comme ça, il faut pas oublier là, qu'il n'y a pas seulement chez Desjardins ou chez Equifax que vos informations nominatives résident. Justement, là, ce week-end, j'ai eu un incident de carte de crédit. J'ai eu à faire un téléphone chez un fournisseur. Première chose qu'on m'a demandé, c'est votre nom, votre code postal, le nom de jeune fille de votre mère. Si quelqu'un connaît ma page Facebook, puis que ma mère est dans la partie relation de ma page Facebook, on connaît le nom de fille de ma mère. On a aussi des logiciels sur les recherches de nos ancêtres. Comme Ancestry, je suis capable de trouver l'ancêtre de n'importe quelle personne au Québec. On est super bien documenté de ce côté-là. Alors, ce sont toutes des informations qui, il y a 20 ans, on n'aurait pas pu penser que ces informations-là pourraient être utilisées, à part par des proches qui me connaissent. Et encore là, c'était plutôt difficile. Aujourd'hui, c'est des informations qui sont répandues et que nous-mêmes, comme utilisateur de plateforme, on a répandu. Alors, du croisement d'informations, ça va être la prochaine génération d'attaques. On va prendre des informations subutilisées de plusieurs endroits, on va les croiser ensemble et on va faire comme les agences de marketing. On va être capable de créer un profil d'un utilisateur, mais beaucoup plus pour vendre ou subtiliser des identités que de lui envoyer de la publicité.
Mais
on est à un autre niveau, là. On est rendu à un endroit où c'est plus changer le numéro d'assurance sociale qui va nous protéger, c'est pas de fermer un compte chez Desjardins qui va nous protéger. C'est réellement d'être beaucoup plus au courant de ce qu'on distribue comme information sur Internet et surtout comment on agit par rapport à toutes les plateformes électroniques de transactions financières, etc., qu'on utilise.
Bien, une fois qu'on a dit ça, justement, en 2019, on est sûrement rendu plus loin que des méthodes des années 90. Pourquoi? Pour des. Là, on se distance un petit peu du cas Desjardins, mais quand on demande des cartes de crédit, quand on demande du financement, pourquoi on n'utilise pas davantage les techniques, la technologie qu'on a actuellement en 2019, ce qui est seulement possédé par nous-mêmes, notre empreinte digitale, nos yeux, notre voix?
Oui, ben, vous touchez un bon point. C'est beaucoup plus la question de systèmes déjà en place réutilisés. Je regarde, il y a certains fournisseurs de téléphonie qui ont la vérification d'empreintes vocales quand vous appelez. Dès que vous vous identifiez vocalement, ils savent que c'est vous et puis ils n'ont pas besoin de demander de questions contextuelles. Ce sont des nouveaux systèmes qui sont mis en place et qu'on va continuer à voir apparaître au fil du temps. La problématique qui existe, c'est que les fournisseurs de services voient la sécurité comme un coût direct. Donc, il n'y a absolument aucune raison pourquoi ils feraient des améliorations sur ces systèmes-là, simplement parce qu'il y a de la nouvelle technologie disponible. Et eux autres croient, bon, on n'a pas eu d'incident, on n'a pas eu de faille, c'est en place, on utilise qu'est-ce qu'on a, et puis ça prend un incident ou une force majeure pour les faire réagir. Ce qui pourrait faire changer les choses dans le futur, c'est si nos gouvernements instauraient des lois qui contraindraient les entreprises à payer des amendes immensément salées pour des vices de procédure ou des failles subites. Et là, à partir de ce moment-là, on verrait peut-être des entreprises voir la sécurité pas comme une dépense, mais bien un évitement de conséquences ou un évitement de coûts éventuels. Alors, quand on change la colonne comptable en matière de fiscalité pour des entreprises, surtout si elles sont publiques, on voit des investissements se faire beaucoup plus facilement. Présentement, la sécurité de l'information pour toutes les entreprises, publiques, privées, gouvernementales ou paragouvernementales, c'est carrément une dépense, un mal nécessaire, et si on est capable d'en faire le moins possible, on en fait le moins possible.
Mais est-ce que c'est très coûteux, la biométrie, les empreintes digitales, on ouvre nos iPhones avec ça maintenant, ça doit pas être si coûteux que ça?
C'est pas la question du coût technologique est pas nécessairement immensément grand, mais c'est un coût qui s'ajuste à l'ensemble des coûts en matière d'opération, et puis les entreprises sont simplement un petit peu paresseuse, et puis entre faire un logiciel de campagne de marketing qui va amener des nouveaux clients et qui va coûter, disons, 500 000 $ et dépenser 500 000 $ sur une nouvelle solution de sécurité d'information qui n'amènera aucun nouveau client, laquelle des deux pensez-vous qu'on va choisir? Celle qui va amener des nouveaux clients. Alors, c'est un petit peu la logique qui est appliquée dans l'ensemble de l'industrie. Si on avait une loi qui disait, bon, si vous subissez une faille puis que vous avez besoin de verser en pénalité 1000 $ par enregistrement perdu, faites le calcul chez Desjardins, je vous garantirais qu'avant qu'un incident se produise, on dirait, bon, ça coûte 2 millions faire une nouvelle procédure pour gérer la façon que nos utilisateurs internes touchent les dossiers, ça serait mis en place parce que ce serait un évitement de coûts.
Éric Tremblay, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Au revoir.
Super intéressant.
Bonjour.
Éric Tremblay, spécialiste en sécurité de l'information. Il y a un comité qui a été créé au fédéral, on le voit. Là, le président Desjardins a été invité là-dessus. Est-ce que ça va déboucher justement sur des règles plus sévères? Peut-être, mais d'ici là, par texto, quelqu'un nous écrit « Je suis un gamer, puis pour avoir accès à mes jeux, il me faut mon téléphone, mon numéro de téléphone, mon empreinte digitale, mon courriel avec mon mot de passe. Et si le site détecte une adresse IP différente, mon compte est bloqué. Je peux pas croire que le gouvernement n'est pas en mesure de nous faire un système mieux sécurisé. » Effectivement.